ça peut se raconter comme une histoire. L'histoire d'un pylône construit en Belgique par l'armée américaine et qui ne sert plus à rien. Enfin, on croit qu'il ne sert plus à rien. Mais en fait, on lui trouve une nouvelle utilité, une utilité que certains sont d'ailleurs prêts à payer très cher. Alors c'est le genre d'histoire qui me passionne parce qu'elle montre que la technologie c'est une affaire très matérielle, une affaire de câbles, d'ondes, de hauteur, de vitesse, de nuages même et d'oiseaux. Le genre d'histoire moi qui me passionne parce qu'elle raconte la folie des hommes, une folie qui est souvent très ancienne et que les technologies d'aujourd'hui ne font que rendre plus évidente. Cette histoire, c'est Alexandre Lemonnier qui me la raconte. C'est un type singulier, Alexandre Lemonnier. Il est belge et son métier, c'est publier des livres de sciences humaines dans une petite maison d'édition bruxelloise qui s'appelle Zone Sensible. Mais il écrit aussi des livres et son dernier raconte l'histoire de ce pylône. Cette histoire, donc, elle commence un jour de décembre 2012 dans le bureau fédéral de la province de Flandre occidentale à Bruges.
Le code a changé.
Ce jour-là, à Bruges, dans une petite pièce, l'État belge, le ministère de la Défense, pour être précis, met en vente un ancien pylône de communication de 240 mètres de haut, un pylône très très haut, dans un endroit qui s'appelle Les Moers, qui est près de la frontière franco-belge, au nord de Dunkerque. Et ce pylône, en fait, avait été construit par l'armée américaine dans les années 60, en 67 exactement, pour faciliter les communications de l'armée américaine entre l'Allemagne et l'Angleterre. Ce pylône est devenu obsolète pour l'armée, puisque plutôt que de faire transiter des informations par les ondes, l'armée a décidé d'utiliser des câbles standard en fibre optique, et donc a cédé gratuitement ce vieux pylône dont on ne se servait plus à l'armée belge qui s'est retrouvée bien embêtée parce qu'elle ne savait pas quoi en faire du tout. Donc elle a décidé de la mettre aux enchères régulièrement. En fait, le ministère de l'armée belge met en vente des anciennes infrastructures dont ils ne se servent plus. Ça va par exemple d'un ancien bunker dans un champ à des anciens sites militaires, voilà, différentes infrastructures. Et dont ce pylône, dont voilà, la mise à prix était de 255 000 euros. J'ai cru comprendre que l'État belge en aurait été content à 400 000 euros et en fait il a été acheté à un peu plus de 5 millions d'euros.
Alors voilà, 5 millions d'euros, évidemment c'est énorme, c'est même complètement disproportionné, d'autant que manifestement les enchères ont été beaucoup plus houleuses que prévu. Tout ça était assez bizarre.
Oui, ça était censé durer une vingtaine de minutes et en fait l'armée pensait qu'un entrepreneur allait l'acheter pour le fondre, en fait, la matière première. Et puis en fait, il y a eu une grande bagarre entre deux acheteurs potentiels qui ont fait monter les prix, voilà, de 1 million, 1 million 5, 2 millions, etc., etc. Ce qui a mis un peu le commissaire priseur dans une situation qu'il comprenait pas vraiment, puisqu'il a été visiblement suffisamment déstabilisé pour interrompre les enchères deux fois et se retrouver un peu aux toilettes pour reprendre un peu ses esprits. Oui, en plus, le nom de l'acheteur final a été connu quelques semaines après, je crois au mois de janvier 2013. Et de toute façon, c'était un nom d'une société de droit anglais qui elle-même appartient à une société américaine qui appartient au final à la société qui vraiment avait besoin de ce pylône. Donc il y avait des sortes de paravent sous forme de société un peu écran entre les gens qui étaient aux enchères physiquement et la société de Chicago qui a acheté le pylône.
Donc, non seulement ce pylône obsolète est acheté une fortune, mais en plus par un acheteur qui veut manifestement rester discret. Néanmoins, on finit par savoir qui est le nouveau propriétaire du pylône, une société de Chicago. On est très 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 loin de la Belgique. On a envie de savoir le nom de cette société et ce qu'elle fait.
Alors c'est une société qui s'appelle Jump Trading. Donc c'est une société qui fait dans l'activité boursière, on va dire, et qui est devenue un des plus gros acteurs de marché. Les acteurs de marché ont des visages très très différents les uns des autres. Vous avez des grands fonds qui prennent des positions très très longtemps, et vous avez ce qu'on appelle aussi maintenant, même si le terme est toujours un peu ambigu et prête à polémique, mais ce qu'on appelle les traders haute fréquence, qui sont eux, pour beaucoup, principalement, ce qu'on appelle des teneurs de marché, c'est-à-dire des market makers. C'est un peu l'huile de moteur du marché, quoi.
C'est-à-dire que c'est eux qui font plus de transactions tout le temps, sans cesse. Voilà, donc ils font vite. Ils apportent de la liquidité dans le marché, c'est ça qu'on.
Alors, il y a toute une discussion de savoir si en effet, bon, toute façon, alors, en tout cas, si ces market makers, ces teneurs de marché n'étaient pas là, a priori, il y aurait quasiment plus de marché. Et pour les market makers, très simplement, le prix, c'est une estimation commune faite à partir d'informations sur quelque chose. Bref, c'est relativement simple. Donc, à un certain moment, les acteurs de marché estiment que le prix, c'est plutôt ça ou plutôt ci. Alors, les prix maintenant varient à un centime près. Donc, c'est ce qu'on appelle le pas de cotation est devenu très fin. pour ces gens-là spécifiquement, il y a une prise de risque à ne pas être tenu informé des différentes informations qui viennent des quatre coins du monde pour ajuster les prix de leurs produits. Donc ces gens doivent être très rapides. Des sociétés de trading haute fréquence qui gèrent des milliers de produits sur, par exemple, 200 marchés différents dans le monde. Tous les prix de ces produits sont plus ou moins corrélés. Donc, ces sociétés doivent se tenir au courant très rapidement des évolutions de prix. C'est-à-dire que l'évolution d'un prix d'un produit dérivé à Francfort va dépendre ou va influencer, par exemple, le prix du même produit dérivé ou un produit corollaire à Chicago.
On commence à y voir plus clair. La société qui a acheté le pylône en a manifestement besoin pour se tenir au courant de ce qui se passe sur les marchés, afin donc de prendre des décisions. Parce que pour ces entreprises qui font du trading à haute fréquence, c'est-à-dire qui passent leur temps à acheter ou revendre des produits en fonction des fluctuations même minimes des différents marchés du monde, eh ben, il faut être au courant en temps réel de tout ce qui se passe partout. Ok, mais ça ne nous explique pas toujours pourquoi une société américaine comme Jump s'intéresse à ce vieux pylône de l'armée américaine planté au milieu de la campagne belge.
Ces sociétés ont alors utilisé jusqu'en 2010 à peu près les câbles en fibre optique par laquelle passe l'internet.
Notre internet.
Aussi, voilà. Et à un certain moment, 2010-2011, il est apparu que au moins une personne, voire peut-être plusieurs, ont eu l'idée que plutôt d'utiliser des câbles qui en fait n'étaient pas optimisés pour la latence, c'est-à-dire pour aller vite, puisqu'ils n'étaient pas en ligne droite. Et donc certains se sont dit, bon, en fait, il y a un truc vraiment mieux pour aller plus vite, c'est-à-dire en l'occurrence deux fois plus vite, c'est d'utiliser des micro-ondes. C'est-à-dire plutôt que d'envoyer des informations depuis Wall Street, qui est du côté de New York, dans New Jersey, à Chicago, plutôt que de faire ça par une fibre qui n'est pas optimisée, qui serpente dans le paysage, on va utiliser des pylônes sur lesquels on met des antennes, des paraboles, pour des raisons géographiques, parce que la Terre est courbe, et donc il y a aussi des montagnes, il y a des zones maritimes à traverser qui sont un peu plus compliquées techniquement. Et donc voilà, pour relier un point A à un point B, vous trouvez le maximum d'infrastructures où vous pouvez placer des paraboles, tous les à peu près entre les 80 et 120, 130 kilomètres, ce qui vous donne une série de pylônes, et l'information permet d'arriver deux fois plus vite qu'avec des câbles. Et en 2010, la course a commencé à ces pylônes. Et il se trouve que le pylône de Houtem, qui a été vendu à Bruges en décembre 2012, se trouve à peu près, pas très très loin de la ligne droite entre Francfort et Londres, qui sont les deux places boursières principales en Europe.
Voilà, c'est donc ça le secret du pylône et surtout de son prix. Il se trouve à un emplacement stratégique entre les deux plus grandes places boursières d'Europe. Mais surtout, il correspond à une évolution technologique. Les sociétés de trading à haute fréquence ont trouvé plus rapide que le câble pour faire transiter leurs informations. C'est la micro-onde. Moi, j'en étais resté au câble fibre optique. Bon, déjà, c'était assez dingue. Je me souviens que début des années 2000, quand on a commencé à parler du trading à haute fréquence, on racontait l'histoire de ce câble qui s'appelle Spread Networks et qui avait été installé entre les bourses de Chicago et de New York, plus exactement Carteret dans le New Jersey où se trouve le Nasdaq, donc qui est la bourse des valeurs technologiques. Comme les câbles de l'internet classique n'allaient pas droit et donc que les informations qui transitaient par ces câbles classiques perdaient quelques millisecondes, et ben une société avait posé un câble fibre optique en ligne droite entre les deux marchés. Ça avait coûté 300 millions de dollars parce que pour aller de New York à Chicago, eh ben, il faut notamment traverser les Appalaches et que c'est pas rien de faire passer un câble dans les Appalaches. Voilà. Moi, j'en étais resté là. Des gens dépensent des fortunes pour percer les montagnes et installer des câbles de fibre optique. Tout ça pour gagner quelques millisecondes. Mais l'étape suivante, les micro-ondes, alors ça m'avait complètement échappé. D'ailleurs, est-ce qu'on a une idée du gain de temps avec les micro-ondes?
Avec les micro-ondes, entre Wall Street et Chicago, on est passé de 8 millisecondes à 4 millisecondes, à peu près. Donc on est de l'ordre des millisecondes. On peut estimer à peu près que les 5 millions dépensés pour le pylône belge, près de la frontière, leur a permis de gagner une grosse dizaine de microsecondes, donc de millionièmes de secondes.
On en est là, gagner des millionièmes de secondes. Alors, Alexandre Lemonnier, il explique que Jump, ce n'est pas la seule entreprise à exceller dans cet art du gain de temps. Si on s'en tient juste à l'axe New York-Chicago, mais il y en a plein d'autres des axes, il y a plusieurs gros acteurs, les franco-américains de Mackay Brothers, ou encore les canadiens de Vigilant. Mais du coup, ça pose une question. C'est quoi un marché aujourd'hui? On sait bien que ça ressemble plus aux images que nous ont laissées les vieilles actualités, ou même le cinéma, c'est-à-dire des gens qui crient dans une fosse et finissent la journée épuisés ou transpirants. On sait que les ordinateurs y ont pris toute leur place. Mais quand même, très concrètement, ça ressemble à quoi un marché aujourd'hui ?
Le marché qui autrefois était un lieu physique avec des humains qui se regardaient, comme on le fait là, et qui échangeaient avec des gestes de la main, ces humains ont été remplacés par des algorithmes. Et le marché lui-même est devenu ce qu'on appelle une matching engine, un moteur d'appariement. C'est ce qui apparie un ordre acheteur et un ordre vendeur pour le même produit au même prix, à un instant T. Donc le marché, en fait, c'est un serveur informatique qui se trouve dans un data center. Et autour de ce serveur, qui est concrètement le marché, vous avez les serveurs avec les différents algorithmes, les différentes sociétés de trading qui ont tous été placés de manière équidistante par rapport au moteur d'appariement pour pas qu'une société puisse aller plus vite. Là aussi, on est plutôt de l'ordre des nanosecondes à l'intérieur des data centers pour régler ça. Ouais. Avec plein d'histoires assez rigolotes. À un moment, ils se sont aperçus que les serveurs des algorithmes des boîtes de trading qui étaient plus proches des circuits de refroidissement allaient plus vite que d'autres.
Non. Donc tous ils ont essayé de se rapprocher.
Donc ils ont, voilà. Alors parfois, comme physiquement, ils peuvent pas mettre tous les serveurs à la même distance des marchés, ils rajoutent du câble pour ralentir certains qui sont un peu plus près. Oui. Alors c'est toute une infrastructure. Moi j'ai pas
eu. Pour mettre à égalité les gens, on rajoute de la longueur de câble.
C'est ça.
Ça paraît complètement dingue. Mais en même temps, cette idée d'être au plus près, d'aller plus vite, elle a toujours été présente dans les marchés. Parce qu'il y a les images d'Épinal, des bourses d'antan dont je parlais tout à l'heure. Mais comment se réglait la question de la vitesse avant que les ordinateurs remplacent les hommes ?
Bah, il faut s'imaginer que ce qu'on appelle les fausses, Pitt en anglais, les fausses qui a été créée en Chicago en 1849, je crois, la patente a été déposée en 1849. En fait, ces fausses étaient un peu comme des octogones et il y avait des sortes d'escaliers en fait, tout autour. Ce qui fait que quand vous étiez en bas de la fosse, vous étiez un peu plus bas que les gens. Mais c'est de l'ordre de 1 mètre, je pense, maximum de dénivelé entre le centre de la fosse et l'extrémité. Pendant très longtemps, les échanges se faisaient par la voie. Mmh. Sauf qu'à un moment, notamment dans les grosses fosses d'euro-dollar, par exemple, qu'il y avait, où vous avez 2000 traders dans une énorme fosse, à la fin, vous entendez plus rien. Donc la manière dont fonctionnaient les marchés financiers humains jusqu'à leur extinction, passait par le regard. Et les gestes de la main. Donc il y avait des dizaines de gestes de la main qui permettaient de signifier des chiffres, des noms des banques, des noms des produits, des quantités. Donc par exemple, quand je fais un geste où je tends mes mains vers vous, ça veut dire je vous vends. Si je prends mes mains et que je les rapporte vers moi, ça veut dire j'achète. Donc il y avait tout un système. Et donc la vue était importante. À partir du moment où la vue est importante dans cette écosystème, dans les grosses fosses, vous avez plutôt intérêt à être grand. Vous passez un peu au-dessus de tout le monde. Ou alors vous mettez dans les hauteurs tout autour, ou alors vous êtes grand. Donc, il y avait pas mal de basketteurs qui étaient... alors, sachant que quand la foule est très dense, quand on est un peu musclé pour pousser un peu les autres, c'est toujours un peu mieux. Bon, à un certain moment, il y avait des traders qui n'étaient pas très grands. Donc, ils sont mis avec des talons aiguilles. Ils sont mis avec des talons aiguilles, ils sont casser la gueule dans les fosses, ça crée des problèmes, des bagarres, etc. Donc le marché a décidé de standardiser la hauteur des talons des traders. Et à un moment, en fait, il s'est trouvé qu'il y avait un fabricant de chaussures à Chicago spécialisé dans des plateformes shoes pour les traders. J'ai fini par retrouver une photo il y a 2 mois seulement, après des années de recherche, où en effet, ce type a une énorme chaussure qui fait 10 cm, 15 cm. Et grâce à ça, vous pouviez être un peu plus grand, vous passez au-dessus des autres, et donc... En termes de regard, vous allez plus vite.
D'anciens basketteurs engagés pour passer les ordres, des types qui mettent des talons aiguilles pour voir mieux et se faire mieux voir. Bon, en fait, la question du pylône n'est qu'une prolongation d'une vieille histoire. Mais du coup, je me demande si avec ces moyens d'aller plus vite, la fibre optique, les micro-ondes et on sait quoi d'autre demain, est-ce que c'est un changement de nature ? Des marchés et de l'économie financière, ou est-ce qu'on est juste dans le prolongement de cette histoire ?
Bon, la vitesse a toujours été importante dans les marchés. À partir du moment où le prix est une information, les informations doivent parvenir le plus vite possible. On trouve déjà des traités en Europe au XVIe, XVIIe siècle qui parlent de ça. Il y a des très belles pages sur les marchés japonais où, voilà, entre Osaka et Tokyo, ils utilisaient des coursiers humains qui allaient le plus vite possible. Alors certains n'arrivaient jamais parce qu'ils buvaient trop de saké, donc ils finissaient bourrés au pied d'un arbre. Il y a beaucoup d'histoires assez intéressantes autour de l'histoire de la vitesse. Donc, la vitesse a toujours été là. La vitesse a toujours été là. Même en Mésopotamie, on a retrouvé des tablettes où il est question, voilà, de plutôt de prendre un cavalier pour apporter de l'information concernant une récolte plutôt que d'envoyer quelqu'un à pied. Donc, c'est une vieille histoire qui est intimement liée à ce qu'est un marché, c'est-à-dire une communauté de gens qui s'entendent sur un prix. On peut après se poser la question jusqu'à quel point il est important de gagner une milliseconde, une microseconde, des nanosecondes. Je sais que du côté de Francfort, Eurex, qui est le principal marché des produits dérivés en Europe, il s'en de ça la nanoseconde pour certaines techniques. On peut toujours aller plus loin. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que tous ces acteurs, les sociétés de trading et éventuellement les sociétés qui leur fabriquent les réseaux, est-ce que plus le temps passe, plus la microseconde coûte cher ?
Pour certains, la microseconde coûte déjà trop cher. Et finalement, le nombre de sociétés ayant créé des réseaux radio, par exemple entre New York et Chicago, a plutôt diminué. Par ailleurs, tout ça ne concerne qu'une partie des acteurs, les traders à haute fréquence, mais parmi eux, ceux qui font par exemple du trading de news, du trading d'actualité, c'est-à-dire qui vont prendre des positions en fonction de l'actualité, comme l'annonce du taux de chômage ou une décision de la Banque fédérale américaine de changer les taux d'intérêt. Bon, parce que ce type d'annonce provoque nécessairement des fluctuations des marchés. Donc l'enjeu pour ceux qui font du trading d'actualité, c'est de réagir au plus vite à l'information, de l'intégrer au plus vite et de prendre des positions au plus vite. Là, les microsecondes, eh ben, elles sont essentielles parce que la fluctuation, elle prendra fin dans un délai ultra rapide lui aussi. Mais la microseconde coûte cher, Alexandre Lemonnier le dit. Elle coûte cher parce que les réseaux qui permettent de la gagner coûtent cher. 5 millions d'euros pour un pylône. Et un seul suffit pas, évidemment. Mais elle coûte cher aussi pour une autre raison. C'est que les marchés ont compris qu'il y avait un nouvel argent à se faire avec l'information. Et ça, je ne l'imaginais mais pas du tout. Et c'est Alexandre Lemonnier qui me le raconte.
Il y a une telle concurrence maintenant entre traders haute fréquence sur la vitesse que les coûts de connectivité pour ces boîtes-là sont devenus énormes. Les marchés leur coûtent très cher. Un marché, maintenant, il vous vend 20 000 dollars par jour l'utilisation d'un câble qui vous relie au marché. Tout le monde a compris à un moment que la technologie, c'est ce qui allait rapporter. Les marchés gagnent plus d'argent avec les données de marché qu'avec les activités des marchés.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire que quand vous êtes notamment teneur de marché, vous devez être informé de tout ce qui se passe. Pendant très longtemps, le marché, il prenait un petit pourcentage sur la transaction que vous faisiez avec quelqu'un.
Bien sûr.
Ce qui est logique, c'est un service rendu pour les traders et la communauté. Et donc, c'est comme ça que le marché se rémunère sur, comme un commerçant prend sa marche. Voilà. Et en fait, l'arrivée du trading à haute fréquence a montré que l'un le plus important, c'était pas seulement la vitesse, en fait, mais les données, les data. Et en fait, donc, les marchés, ce qu'ils faisaient déjà avant, mais maintenant vendent aux sociétés de trading les données qui correspondent à toute l'activité de leurs produits d'une journée, par exemple. Ça coûte des centaines de milliers de dollars aussi. Et en fait, donc maintenant, le New York Stock Exchange, donc Wall Street, gagne plus d'argent en revendant les données aux traders, alors que c'est les traders qui les ont générées, que sur les coûts de transaction, enfin sur le pourcentage pris sur les transactions. Et du coup, le marché fait payer extrêmement cher tout ce qui est câble, connectivité aux traders, à un point que maintenant, certains traders haute fréquence, qui sont plutôt à la pointe, commencent à envoyer des lettres aux régulateurs américains en disant qu'il faut un peu changer tout ça, parce qu'ils n'arrivent plus à payer les coûts de connectivité.
Les traders demandent aux régulateurs d'agir contre les marchés.
Voilà. Sur le data center du New York Stock Exchange, qui est dans le New Jersey, un patelin qui s'appelle Mahwah, une sorte de campagne un peu industrielle. Donc là, vous avez évidemment des antennes autour du marché, vous avez des paraboles pour les réseaux en micro-ondes. Le New York Stock Exchange interdit aux traders ou aux opérateurs de placer les antennes directement sur son toit, parce que elle veut y mettre sa propre antenne et créer son propre réseau. Parce que quand vous avez l'antenne sur le toit, après vous avez le câble pour descendre dans le data center, mais quand votre antenne, votre parabole, elle est à 100 mètres de là, vous perdez du temps.
Et c'est quoi l'intérêt du marché, là?
L'intérêt du marché lui-même, c'est qu'en mettant sa parabole au plus près du toit, au plus près du moteur d'appareillement, il va aller plus vite que les autres. Et donc, il veut créer son propre réseau pour contrecarrer les réseaux des autres traders.
Et je comprends pas l'intérêt.
Pour que tous les traders viennent payer pour leur réseau à eux, puisqu'il est plus rapide.
Ah, ok. Il devient un réseau télécom, en fait, le marché.
Donc, voilà. C'est assez fou d'imaginer qu'un marché, qui est un serveur, est aussi un réseau télécom qui monnaie la connexion et l'information. Alors, revenons aux micro-ondes, parce que ce que je trouve très beau avec cette histoire de pylône, c'est l'irruption d'une question, au fond, très matérielle, qu'on oublie souvent quand on parle d'Internet. On a du mal à percevoir la matérialité d'Internet. Les data centers, donc c'est-à-dire les fermes de serveurs, elles ressemblent à des hangars quelconques, les câbles qui apportent l'Internet jusque dans nos foyers, que ce soit la DSL ou la fibre optique, ils sont en général enterrés, on les voit pas. Ce qu'on voit, c'est notre minuscule box, qu'on essaie d'ailleurs de cacher la plupart du temps, Alors, la micro-onde que les traders se mettent à réutiliser, eh ben, c'est le retour du matériel. Et je demande donc à Alexandre Lemonnier de me décrire ce pylône, vraiment me le décrire, et me décrire son utilité particulière.
Et ce pylône, en fait, qui a été acheté 5 millions d'euros, il était intéressant parce qu'il était très haut. Il était très haut parce qu'en fait, il sert à traverser la Manche, donc à relier la Belgique à Douvres. Le problème avec la Manche, c'est que c'est une zone extrêmement humide. En fait, les micro-ondes sont plutôt attirées. Donc, ont tendance à descendre, à chuter un
peu. Elles plongent.
Voilà.
Ah, okay.
Donc, plus votre signal passe haut, moins vous êtes dérangé par la nature. C'est la raison pour laquelle l'armée américaine a construit un pylône de 243 mètres de haut, en plaçant une parabole tout en haut, sachant qu'à Douvres, vous avez des falaises, donc vous êtes déjà en hauteur, alors que la Belgique, on est au niveau zéro, vous arrivez à avoir un signal qui est à peu près, entre guillemets, horizontal.
C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où la météo devient importante.
Entre le New Jersey, là où il y a tous les marchés d'actions, ce qu'on appelait Wall Street autrefois, et Chicago, ces réseaux passent par les... Vous avez des antennes de traders dans l'Ohio. Le problème, l'Ohio, il y a souvent de la pluie. Donc un motto maintenant, c'est de dire quand il pleut dans l'Ohio, la liquidité des marchés est moindre dans le New Jersey.
Est-ce que c'est vrai ? Ça veut dire que ce sera
Je pense que c'est pas complètement faux, oui. À partir du moment où vous vous reposez sur une infrastructure radio qui est susceptible d'être, entre guillemets, attaqué par la nature, par les vicissitudes un peu de la nature, que ça soit l'eau, ça peut être, alors parfois quand il y a des énormes tempêtes aussi qui peuvent créer des problèmes, parfois vous avez, bon, des montagnes à franchir, bon, des choses comme ça. Donc, en effet, je pense qu'à un certain moment, le fait qu'un réseau soit un peu moins opérationnel peut avoir des conséquences sur l'arrivée de l'information, donc sur la liquidité.
C'est drôle, ça. Comme si la métaphore de la liquidité, donc qu'on emploie dans les marchés financiers, eh ben, tout à coup, elle retrouvait son sens très matériel. La pluie crée de la liquidité. Bon, c'est à méditer. Mais ce qui est aussi à méditer, c'est le rôle de la nature dans tout ça. Il y a quelques années, un journaliste américain, Andy Bloom, a écrit un très beau livre, Tubes. Son livre, c'était une enquête sur l'Internet matériel, les serveurs, les câbles, les Internet Exchange, c'est-à-dire les endroits où se connectent les différents réseaux qui composent un Internet, parce qu'Internet, c'est un réseau de réseaux, on le sait. Et son enquête... Il l'avait commencé chez lui, parce qu'un jour, il n'avait plus réussi à se connecter à Internet. Et quand il a fini par faire venir un réparateur, le type lui a expliqué que son câble avait été mangé par un écureuil. Alors là, Andy Bloom s'est dit « Ok, si un écureuil a réussi à me priver d'Internet, il faut que je remonte le fil, bon, littéralement, hein, et que je comprenne tout ça. Vraiment comment ça marche, tout ça. » C'est ce qu'il racontait dans Tubes. Et finalement, avec cette histoire de pluie qui ralentit les micro-ondes, Alexandre Lemonnier nous raconte la même chose. On ne s'est pas abstrait des contingences de la nature avec nos technologies, les plus pointues soient-elles. Pas du tout. Mais puisqu'on en est à parler de matériel, parlons de chair et parlons d'humain, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas qui sont ces types qui passent leur vie à chercher des moyens d'aller plus vite pour les revendre ou les louer aux sociétés de trading. Est-ce qu'ils ont des profils particuliers, ces gens ?
Si on reprend un peu l'histoire, donc on reprend 2010-2011, en effet le premier réseau a été créé sous le nom de AB Services par un russe devenu américain qui s'appelle Alex Pilosov, qui lui-même en fait a plutôt un profil d'informaticien un peu hacker, voilà, ce genre de choses. Mais qui est une sorte de bidouilleur, moi on me l'a présenté une fois en me disant « oui c'est un gars, il pourrait faire décoller une fusée avec trois bouts de chewing-gum ». Voilà, donc c'est des gars qui arrivent à faire des trucs avec trois fois rien, qui sont suffisamment intelligents pour bidouiller des choses à moindre coût. Donc vous avez un peu ce genre de profil, qui bon probablement le premier à avoir réussi à monter un réseau. Après vous avez d'autres... Dans les gens que j'ai croisés, j'en ai croisé pas mal, quelques dizaines, vous avez un peu tout, des ingénieurs, pour qui c'est un challenge intéressant de réussir à créer ces réseaux. Vous avez aussi des ingénieurs qui sont intéressés par l'argent, parce que c'est plutôt bien payé dans certaines sociétés. Je pense qu'à la fin, c'est pas seulement le fait d'arriver à faire gagner de l'argent, de plus d'argent aux sociétés, c'est vraiment le challenge un peu technologique. C'est vrai, d'arriver à se battre pour 2 microsecondes sur un réseau de 1600 kilomètres, c'est assez dingue.
Donc, pas de profil type, même si, d'après ce que j'ai compris, certains sont prêts à passer en force. D'ailleurs, je crois que c'est ce côté hacker de certains qui a participé à la critique qu'on fait beaucoup au trading à haute fréquence. En fait, il y a plein de critiques. Mais une d'elles, c'est de dire que ces échanges perturbent les marchés. Je pose donc la question à Alexandre Lemonnier Et alors là, j'avoue que sa réponse me surprend.
La plupart des gens ont plutôt tendance à dire que c'est bien, même les gens qui en font pas, hein, ouais. Et qui en bénéficient, oui. Mais en fait, le fait que les pas de cotation aient été réduits par rapport au temps des marchés humains, le fait que le risque soit un peu plus géré, moi, c'est ce que j'ai beaucoup entendu de managers de hedge funds, par exemple, dont des gens qui gèrent des milliards, qui font pas du tout les mêmes opérations que les traders haute fréquence. Ils sont pas à vendre et à acheter à la microseconde près, c'est pas du tout leur job. Eux, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'avec l'informatisation des marchés et l'arrivée de ces traders haute fréquence, des market makers, pour eux, les prix à la fin sont meilleurs par rapport quand ils font des transactions. Bon.
D'accord.
Là, il faudrait être aussi, voilà, il y a plein d'articles disponibles gratuitement en anglais sur ces sujets-là. Alors, il y a des polémiques, en effet, des fois, en cas de stress, par exemple, quand il y a une sorte de crack qui arrive un peu comme ça. Mais de fait, quand les gens très rapides se retirent du marché en nombre, bah, ça ne fait qu'accélérer le crack. Donc, on arrive à ce qu'on appelle des flash crash. Ce qui est fascinant, c'est de voir qu'en fait, en général, en quelques secondes après, le prix, tout est revenu à la normale.
Les flash crash, c'est un phénomène qu'on a vu arriver avec l'informatisation des marchés. Ce sont donc des crashs qui durent très très peu de temps, mais qui peuvent engager des milliards. Et il y en a un flash crash qui est resté très célèbre, c'est celui du 6 mai 2010. Alors lui, il a duré longtemps, une demi-heure. En gros, en 10 minutes, l'indice du New York Stock Exchange a perdu presque 10%, ce qui ne s'était jamais vu dans son histoire, avant de remonter presque aussi vite. Même s'il y a eu des rapports d'enquête un peu contradictoires, on estime que ce sont les algorithmes qui sont en grande partie responsables de ces mouvements très brutaux. Parce que ces algorithmes, ils se sont entraînés les uns les autres dans une logique un peu folle. Parce que oui, il faut dire que ces programmes ne font pas qu'analyser des informations et éventuellement passer des ordres, ils se surveillent aussi les uns les autres. Je me souviens qu'on m'avait raconté que dans ce monde du trading à haute fréquence, il y avait une sorte d'ingénieur qui était particulièrement prisé pour écrire les programmes. C'était les physiciens spécialistes des avions furtifs. Parce que le trading à haute fréquence, c'est un peu le même principe qu'un avion furtif. Il faut dissimuler aux yeux des radars une grosse masse qui se déplace. Alors, dans un cas, c'est un avion, cette grosse masse, mais dans l'autre, c'est de l'argent. Mais dans les deux cas, le problème, c'est le même. Il ne faut pas que ça se voit. Alors je me dis qu'un monde où les enjeux sont tels, où le secret est si important, eh ben ça ne doit pas être très facile à pénétrer. Or, manifestement, Alexandre Lemoynier, il les connaît très bien, ces gens, il discute avec eux. En tout cas, certains. Donc, je lui demande comment il a fait.
Si vous demandez à discuter avec les gens sans arriver avec un couteau en leur disant que c'est des salopards de capitalistes, en fait, les gens, ils sont tout à fait prêts à parler.
Mais c'est pas des salopards de capitalistes ?
Pas tous. On est tous dans ce système capitaliste. Par exemple, si vous prenez la crise de 2008, les subprimes et tout ça, c'est incommensurablement plus énorme que le trading à haute fréquence, par exemple. Les sommes échangées par les traders à haute fréquence, c'est rien par rapport à 2008. Parce que souvent, on compare, on se dit, oui, le trading à haute fréquence, avec la vitesse, on va arriver à une crise comme 2008. Ça n'a strictement rien à voir. Les traders à haute fréquence ne font pas de trading de subprimes, ce genre de choses. Donc, ce qui est jamais évident à faire comprendre, c'est qu'il y a vraiment des visages très, très, très différents dans le marché en tant que, avec un grand M.
D'accord, mais quand même. D'après ce que j'ai compris, les pionniers de l'informatisation des bourses, dont certains sont devenus aussi des spécialistes du trading à haute fréquence, c'était pas non plus des gens très tendres. C'est-à-dire qu'avant les autres, ils ont vu ce que les ordinateurs pouvaient apporter aux traders, comment on pouvait faire plus d'argent avec l'informatique, pour le dire concrètement. Et dans un premier temps, ils se sont pas vraiment souciés de savoir si c'était légal ou pas. D'ailleurs, je crois que l'histoire leur a donné plutôt raison, parce que les marchés ont dû s'adapter aux innovations technologiques plutôt que l'inverse, je crois. Bon, du coup, je me demande si c'est la même chose pour la micro-ondes aujourd'hui. Est-ce que ces gens, ce sont des truands? Est-ce qu'ils jouent avec la loi?
Il y a des gens qui se comportent très mal, il y a des gens qui fait des choses illégales, qui ont installé des antennes avant d'avoir des autorisations, parce qu'ils étaient en retard, etc. Et d'autres gens qui font ça de manière beaucoup plus propre, et surtout qui offrent leur service à toutes les sociétés qui veulent bien le prendre. Ce qui est très différent que d'être seul à vouloir acheter tous les pylônes du monde qui sont intéressants.
C'est intéressant cette histoire de la légalité. Parce que quand on prend le combo réseau de communication plus marché financier, eh ben on n'est pas toujours au sommet de la propreté. Alors, quand je demande à Alexandre Lemoynier s'il y a toujours eu la tentation dans la finance de trafiquer les réseaux pour son propre intérêt, il me raconte une vieille histoire, une histoire beaucoup plus vieille que je l'aurais imaginée, qui remonte aux années 1830.
« En France, on a eu, grâce à Napoléon, le fameux réseau de Claude Chappe, donc qui était un réseau de sémaphores. Et en fait, en effet, il y a deux frères qui faisaient du trading entre Paris et Bordeaux, et il y avait en effet un réseau de Claude Chappe entre, alors qui n'était pas du tout optimisé pour la vitesse, parce qu'il passait par Tours pour aller de Paris, il allait à Tours pour aller à Bordeaux, donc on n'est pas du tout en 2019. Et en fait, ils ont soudoyé un opérateur du sémaphore de Tours, je crois, pour envoyer des ordres un peu illégaux à la bourse de Bordeaux en fonction des informations de la bourse de Paris. Je crois que ça a duré 2 mois. Et en effet, ils avaient tout un code où quand l'opérateur recevait une chaussette, ça veut dire tel sémaphore-là, donc il fallait acheter, ou alors en baisse ou en hausse, etc., etc. Donc en effet, c'est une sorte de premier hacking d'un réseau en l'air.
Bon, ça validerait plutôt mon hypothèse qu'il y a un lien entre marché financier, réseau de communication et combine, et un lien ancien, même si j'aurais pas imaginé que le premier exemple c'était le piratage d'un réseau de sémaphores en 1830 entre Paris et Bordeaux. Mais ça pose une autre question. Si c'était si simple de gruger au 19e siècle, est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut interrompre ou détourner un réseau de micro-ondes, par exemple?
Ce qui est intéressant, c'est aussi la vulnérabilité en fait de ces réseaux, comparé à la fibre optique. La fibre optique, si vous vous renseignez bien, vous trouvez ce qu'on appelle les landing stations. C'est là où le câble qui traverse, par exemple, l'Atlantique arrive sur la plage en France ou en Belgique ou en Angleterre. Là, vous pouvez éventuellement le couper à un bout de l'Internet. Mais c'est quand même relativement compliqué. Pour les paravoles, c'est très simple. Vous avez les problèmes qu'ils ont aussi pour traverser la Manche. Quand il y a vraiment des gros bancs d'oiseaux qui traversent à un moment, ça perturbe. Parce que si vous coupez le signal entre deux paravoles, vous n'avez plus de réseau. Il n'y a plus rien.
Donc, ces réseaux sont vulnérables. Mais, de toute façon, une fois qu'on sait où passe un câble, il est vulnérable aussi, ce câble. Et ça me rappelle cette histoire assez marrante d'une vieille géorgienne qui gagnait sa vie en coupant des fils de cuivre qu'elle revendait au kilo. Et ben, un jour, à Tbilissi, elle a coupé un câble et pof, la quasi-totalité de l'Arménie a immédiatement été privée d'Internet. Elle avait coupé le câble qui fournissait 85% de l'Internet arménien et une partie d'ailleurs de l'Internet azéri. Par hasard, comme ça. Entre ça et un vol d'oiseau au-dessus de la Manche, les réseaux sont donc vulnérables. Mais ces réseaux de micro-ondes qui relient des places de marché, ils sont où? Eh bien, ils sont partout. D'après Alexandre Lemonnier, beaucoup en Belgique, qui est au cœur de l'Europe, donc sur les trajets entre Londres et Francfort, mais ils sont aussi en France. Par exemple, des réseaux de micro-ondes font Londres-Zurich et Londres-Milan, et ben ils passent par le nord de la France, par la Somme et par les Vosges. Et ils utilisent les mêmes paraboles que les sociétés téléphones. Ces grosses antennes là qu'on voit en haut des pylônes, elles transportent donc le signal de la télé, de la radio, les données de téléphonie, mais aussi des données boursières. Mais cette histoire que raconte Alexandre Lemonnier, elle est peut-être sur le point de se terminer. Parce que, en gros, quand on a des parcours de micro-ondes qui sont pas loin de la ligne géodésique parfaite, à moins de quelques améliorations hardware, on peut pas gagner tellement plus de temps avec cette technologie. Donc, c'est quoi l'étape suivante? Vers quoi vont se tourner les sociétés chargées de faire gagner du temps aux traders?
L'étape suivante, ça peut être par exemple utiliser les ondes courtes, qui est encore plus ancien que les micro-ondes. Les ondes courtes, donc c'est Marconi, d'ailleurs le premier test des ondes courtes qui a vraiment fonctionné, c'est Marconi.
Parce que ça va plus vite que la micro-ondes.
Alors, les ondes courtes, elles sont sympas, en fait elles montent jusqu'à la ionosphère, elles rebondissent et elles redescendent. Donc vous avez un émetteur, un récepteur. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que tout autour du data center de Chicago, une banlieue industrielle sans intérêt qui s'appelle Aurora, vous avez des nouveaux types d'antennes à ondes courtes qui permettent, en fait, d'envoyer des informations depuis Aurora jusqu'à Francfort où vous avez des antennes qui sont des récepteurs.
Directement.
Ça prend moins que le câble plus rapide qui permet de traverser l'Atlantique. On est de l'ordre de 40 millisecondes. Le problème des ondes courtes, c'est que par contre, vous envoyez, autant avec les micro-ondes, vous pouvez balancer des mégas et des mégas bits de données. Avec les ondes courtes, vous envoyez quelques mots.
Ah oui, c'est marrant, c'est vraiment un retour à l'ancien.
Ah oui, c'est vraiment une phrase de 5 ou 6, je crois, hein, pas beaucoup plus.
C'est-à-dire que comment
beaucoup de pertes de signal en plus, enfin c'est très compliqué.
Et à quoi ça sert pour passer un ordre? Je comprends pas comment.
Tu te crées un code à partir de lettres.
Ah, donc on revient en fait exactement au truc comme ça se passait des visus.
Il y a un code, je sais pas exactement comment. En tout cas, c'est codé. Les ordres sont codés, donc en général un ordre c'est le nom du produit, un volume et un prix. C'est à peu près ça un ordre, il n'y a pas beaucoup plus à la base. Envoyer ça avec 5 mots, c'est a priori complètement faisable.
Alors ça c'est un paradoxe incroyable. Pour gagner en vitesse, on en revient à une communication extrêmement réduite. Très peu d'informations, comme les sémaphores. C'est étrange hein, cette idée de la vitesse contre la bande passante. Mais est-ce qu'il y a d'autres technologies qui sont envisagées que les vieilles ondes courtes ?
Certains réfléchissent à des réseaux de satellites pour aller plus vite que les ondes courtes. C'est pour ça que ça, évidemment, tout ce qui se passe du côté d'Elon Musk et les networks là, de satellites peut les intéresser. Il se trouve que l'ancien ingénieur qui travaillait pour Jump, en fait c'est lui qui a acheté le pylône pour 5 millions d'euros en Belgique, il travaille pour une société qui fait des lanceurs de fusées maintenant.
Ok, donc si j'étais complotiste, mais comme je ne le suis pas, je peux le dire, je dirais que tout est lié. Les types qui ont fait des micro-ondes pour transporter les informations boursières se mettent aux fusées et regardent du côté de Elon Musk, le patron de Tesla, qui est devenu dans la stupéfaction générale un acteur majeur du spatial avec sa société. Bon, ok, d'accord. Mais est-ce que ça pourrait se ralentir, tout ça ? Est-ce qu'on est condamné à une accélération sans fin ?
Il faudrait trouver un cas où quelqu'un a décidé un jour de ralentir les choses. Je ne pense pas que ça soit arrivé. Bon, vous avez une limite, quelque part, c'est un peu la limite ultime, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. Bon, tant que le paradigme einsteinien est toujours en place, il y a un moment vous ne pouvez pas aller plus vite.
Et là, on est à 98%?
Je crois qu'ils sont même à 99,98, je crois, aux États-Unis. Ah oui, ils sont très proches, oui. C'est pour ça qu'ils se battent pour une paire de microsecondes.
Ce qu'il décrit, Alexandre Lemonnier, c'est une tendance globale, une sorte de pulsion humaine. Mais ça apporte une autre hypothèse. Cette tendance à la vitesse, cette quête de la vitesse, elle est peut-être pas propre aux traders à haute fréquence. D'ailleurs, d'après ce que j'ai pu voir, certains câbles ont été cofinancés par des sociétés qui font du trading, ok, mais d'autres qui font tout à fait autre chose. Et quand je lui pose la question, Alexandre Lemonnier me parle spontanément d'Amazon.
Il y a tellement d'ordres qui sont passés sur Amazon.com.fr que pour que les machines suivent, il faut qu'elles soient très rapides. Et que du coup, les informations, comme Amazon et dans le monde entier, il faut que toutes ces informations transitent le plus vite possible. Je sais qu'Amazon est une ou deux millisecondes près pour certaines choses. Voilà.
Une ou deux millisecondes, pourquoi ?
Parce qu'à un moment, il y a tellement de gens qui achètent sur le site que si vous n'avez pas un système qui tourne derrière, vous cliquez, vous allez attendre 10 secondes. On est bien d'accord que dans le monde dans lequel on est, on clique en général, on attend... 1-2 secondes, au bout de 3 secondes, on commence à se dire qu'il y a un bug, au bout de 4 secondes, le site ne marche plus, et au bout de 10 secondes, peut-être on passe à autre chose. Donc eux, ils sont sensibles, et à la milliseconde près.
Et ben voilà. En fait, le problème, c'est que cette vitesse, on la désire. Tous. C'est-à-dire qu'on peut faire les atterrer en trouvant fou que les sociétés de trading à haute fréquence dépensent des millions d'euros pour gagner quelques millisecondes, mais elles ne sont pas les seules. Et si elles ne sont pas les seules, c'est parce que c'est collectivement on ne supporte pas que ce qui pourrait aller vite aille lentement. Et c'est vrai que quand on réfléchit à la complexité de ce que c'est qu'un achat sur Amazon, on pourrait supporter qu'il faille, quelques secondes entre l'ordre et sa réception ou l'acceptation de l'ordre. Et en fait, non, on ne le supporte pas. Et là, ce sont plus des traders appâtés par le seul gain qui sont les commanditaires de la vitesse. Là, avec Amazon, c'est nous qui sommes les commanditaires de cette vitesse. Nous, les consommateurs lambda. Voilà, c'était un peu la leçon de morale du jour. Merci à Alexandre Lemonnier. Le livre donc dans lequel il raconte cette histoire de pylône, de micro-ondes, c'est 4, mais je vous recommande la lecture des autres, 6 et 5, dans lesquels il détaille le fonctionnement du monde du trading à haute fréquence. C'était Le Code a changé, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.